Bonjour à tous. Merci pour la confiance que vous me faites en me demandant de revenir. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony, je suis étudiant ici à l'Institut biblique de Bruxelles, donc plutôt au deuxième et au troisième étage. Je suis marié à Ludivine et nous avons une petite fille qui s'appelle Jeanne. Et je remercie, enfin vous transmettrez mes remerciements pour toutes les personnes qui gardent les bébés à la crèche et même pour les filles un peu, et les garçons un peu plus grands également. C'est un service qui est extrêmement précieux. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Colossiens chapitre 3. Connaissez-vous HMI ? À bras levés, qui le connaît ? Absolument personne. Et c'est un peu bizarre parce que c'est une personne assez connue qui, en décembre 2024, a organisé un événement au pied de l'Atonium. Et il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. L'événement a tourné en quasi-émeute puisque même les forces de l'ordre n'étaient pas au courant. C'est une personnalité publique, ce qu'on appelle un influenceur, qui a plus de 11,4 millions d'abonnés, et certaines de ses vidéos atteignent 40 millions de vues. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi, ce matin, parmi nous, personne ne le connaît ? Les sociologues parlent de l'archipélisation de la Belgique, c'est-à-dire que la Belgique ne serait plus une île commune, où nous avons tous les mêmes références, la même culture, la même éducation, mais en fait, nous sommes tous divisés en petites archipels où chacun vit une expérience économique ou sociale totalement différente. Et en fait, nous vivons à côté de certaines personnes que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas du tout les mêmes références, nous n'avons pas le même humour, la même éducation, les mêmes convictions, et nous ne vivons plus ensemble. Et donc notre méconnaissance de cet influenceur, très populaire pourtant, est une preuve flagrante de l'archipélisation de la Belgique. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est qu'en est-il de l'archipélisation de notre Église ? Dans le texte de notre prédication ce matin, donc la lettre de Paul aux Colossiens, Paul leur rappelle et leur fait des déclarations frappantes à leur sujet, donc aux membres de l'Église de Colosse. Il leur a déjà dit dans la lettre que si Christ est la tête, l'Église est son corps. Il leur a dit également que, alors que tous les peuples étaient étrangers et ennemis, ils sont maintenant réconciliés par Christ. Et donc ce que Paul veut faire comprendre aux Colossiens dans sa lettre, c'est un peu, on peut dire, le résumé de la lettre globale, c'est que la plénitude de Christ habitant les Colossiens se manifeste par leur unité. Autrement dit, comment savoir si Christ habite vraiment les Colossiens ? Eh bien, par leur unité. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir la certitude que les Colossiens sont remplis de la plénitude de Christ. Le problème, c'est que dans l'église des Colossiens, il y avait plusieurs faux enseignants qui divisaient cette assemblée. Il y avait les légalistes qui disaient « Frère, Yahweh nous a donné la Torah et nous devons y obéir, nous devons nous faire circoncire. » Même Yeshua, Jésus-Christ, s'est fait circoncire. Et puis d'un autre côté, les mystiques répondaient « La loi ?» Mais elle ne sert strictement à rien. Nous pouvons élever nos âmes et louer avec les anges le Dieu. Ce à quoi les philosophes rétorquaient, mais vos fêtes et vos visions, tout cela est primitif. Pour adorer un grand Dieu, il faut de la réflexion. La foi, c'est bien pour commencer, mais après, il faut réfléchir. Et puis enfin, les ascètes disaient, mais vous êtes tous trop charnels. Le corps est mauvais, il faut le dompter, il faut se priver. Et en fait, à force de se comparer les uns aux autres, eh bien, ils se regardaient en face et détournaient le regard de Jésus-Christ. Ils se divisaient. Le corps de Christ se fracturait. L'église des Colossiens était en pleine archipélisation. Alors, comment y remédier ? C'est l'objet de notre prédication ce matin. Paul donne une réponse théologique en Colossiens chapitre 3, verset 1. Il leur dit « Puisque vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. » Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos vies ? Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il y a là, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous croyons que tu t'es révélé par ta parole et nous pouvons mettre toute notre confiance en ta parole puisque tu ne te trompes pas et tu ne mens pas. Ta parole agit dans nos vies comme un marteau sur une enclume et nous implorons ta grâce pour que ton Saint-Esprit vienne illuminer notre cœur ce matin et nous rendre attentifs à ta parole. Merci parce que ta parole nous est pleinement suffisante. Nous y trouvons tout ce dont nous avons besoin pour te connaître et pour obéir à ta volonté. Dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel est le message de Paul aux Colossiens ? Premièrement, il leur dit « Vous êtes morts, donc faites mourir le péché ». Et c'est un peu bizarre. Le premier impératif que Paul leur donne au verset 5, c'est « Faites donc mourir !» Mais si vous lisez le verset 3, Paul leur a dit « Vous êtes morts !» Mais c'est incompréhensible. Pourquoi faire mourir quelque chose qui est déjà mort ? N'est-ce pas un peu incohérent ? Ça fait faire un peu penser à ce théologien Olivier Cromwell qui a été mort, qui avait été enterré. Puis quelques temps après, des personnes l'ont déterré, l'ont pendu et l'ont décapité. Mais c'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens. Mais quelle folie ! Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ? Pensez plutôt à une balade en forêt. On aime bien regarder les arbres, toute la nature, les animaux, les plantes. Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est que si dans la forêt, il y a un arbre qui est mort et qu'on le laisse tel quel, cet arbre peut faire encore des dégâts. Un des travaux du bûcheron, c'est d'aller dans les forêts, repérer les arbres qui sont morts et les abattre. Ils sont déjà morts, mais il faut les abattre. Et c'est ce que Paul nous demande avec le péché. Oui, le péché a déjà été jugé en Christ. Mais Paul nous dit, allez jusqu'au bout. Faites mourir tout ce qui est terrestre en vous. Autrement dit, faites ce que vous êtes. Alors que doivent faire mourir les Colossiens ? Paul donne une première liste. Verset 5, la conduite, la pureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Pourquoi Paul a-t-il choisi spécifiquement ces péchés-là? Il semble que cette liste évoque des péchés particulièrement centrés sur soi. Chacun de ces péchés, a une connotation sexuelle. C'est ce qui expliquerait la dureté des propos de Paul au verset 6. C'est à cause de ces péchés sexuels que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Cela ne devrait pas nous choquer. Les péchés sexuels sont complètement contraires à ce que Dieu avait prévu dans la Genèse. Si vous lisez les premières pages de la Bible en Genèse 1 et 2, vous allez voir que Dieu a créé un monde parfait. Et dans ce monde, l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie. Or, les péchés que Paul énumère renversent totalement ce que Dieu avait créé. Les péchés sexuels ne sèment que destruction et division. Nous sommes complètement aux antipodes du monde que Dieu avait créé. Et là, peut-être que vous vous dites, Tony, n'es-tu pas un peu trop pessimiste? Permettez-moi de vous lire quelques statistiques. 90% des contenus pornographiques contiennent des violences physiques, sexuelles ou verbales contre les femmes. L'infidélité touche un couple sur trois. Un cas d'infidélité sur deux conduit au divorce, et les enfants témoins d'infidélité souffrent de perte de confiance, de perturbations émotionnelles et de difficultés relationnelles sur le long terme. Ceux qui ont eu plus de 10 partenaires sexuels présentent un risque accru de 70% de développer un cancer chez les hommes et 91% chez les femmes. Les adultes élevés par des parents de même sexe, présentent un risque accru de dépression 2,6 fois plus élevé que par un couple hétérosexuel. À quoi ressemblerait notre monde si ces péchés n'existaient pas? Imaginez un monde où il n'y a plus de violence contre les femmes, il n'y a plus de féminicide, plus d'harcèlement sexuel, plus de foyers brisés par l'infidélité, plus de maladies sexuelles, plus d'avortements, plus d'hommes dépressifs et plus de sentiments de solitude. Ces péchés sexuels tant encouragés révèlent une profonde idolâtrie. Dieu avait établi que la sexualité se vive dans le cadre du mariage uniquement entre un homme et une femme. Et ça, si Dieu nous fait cela, c'est pour notre bien. Mais nous préférons nous-mêmes décider de ce qui est bon pour nous. Nous faisons de nos désirs un Dieu auquel nous obéissons. Nous devons le préciser à notre époque. Ce n'est pas parce qu'on éprouve du désir pour quelque chose que cette chose-là est bonne. Prenez un enfant de 5-6 ans. Vous lui mettez dans un magasin toute la journée. Son désir va se porter vers des bonbons et il va en manger toute la journée. C'est mauvais pour lui. Si on interdit à un enfant de manger autant de bonbons, c'est pour son bien. Il y a un cadre dans lequel il peut manger des bonbons, mais il ne peut pas dépasser ce cadre, sinon il va vomir, il va être en mauvaise santé, il va avoir des caries, il va être en carence de vitamines, c'est pour son bien. De même, le désir sexuel est bon seulement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Mais en dehors de ce cadre, il devient nocif. Mais en quoi ces péchés sont-ils profondément individuels et collectifs? Eh bien, au lieu de se tourner vers les autres, nous nous replions vers nous-mêmes. Plutôt que de rendre visite à ce frère ou à cette sœur qui se sent pas bien, je m'enferme seul dans ma chambre et je regarde des vidéos avec des choses qui ne sont pas saines. Plutôt que d'aider ma femme avec les enfants en rentrant du travail, je m'arrête au bar du coin pour boire une bière seule. Et le péché a cette puissance terrible. Il nous enferme sur nous-mêmes. Et plus profondément encore, il nous divise. Mais Paul rappelle cette vérité libératrice au verset 7. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Et nous devons le réaliser. ce mode de vie, c'était avant de connaître Christ. Ce n'est plus du tout nous aujourd'hui. Et Paul, s'il doit le rappeler aux Colossiens, c'est certainement parce que les Colossiens, comme nous peut-être ce matin, nous luttons encore avec ces péchés. S'ils ne luttaient pas avec ces péchés, Paul n'aurait pas besoin d'écrire cette lettre aux Colossiens. Mais non, il voulait encourager ses frères et sœurs en Christ. Mais tristement, les faux enseignants de cette assemblée ont profité pour instaurer des règles, instaurer et rajouter des règles en plus de ce que la Bible donne. Oh, un vrai chrétien, il ne doit pas écouter la radio. Ça, c'est ce que les gens disaient au temps de mon grand-père. Vrai chrétien ne doit pas regarder la télé. Le vrai chrétien n'est pas sur les réseaux sociaux. Le vrai chrétien ne regarde pas Netflix. Et on se rajoute des règles qui n'ont aucun sens. On ne sait même plus pourquoi ces règles sont là. Mais on y obéit sans réfléchir. Mais Paul a un discours beaucoup plus libérateur. Ces péchés n'ont plus rien à voir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Et réaliser cela change complètement notre façon de lutter avec le péché. Ce n'est plus quelque chose de moralisateur ni ennuyeux. Paul n'est pas contre le plaisir ni contre l'amusement. Il nous rappelle simplement une réalité incroyable. Nous sommes célestes, nous sommes destinés au paradis, nous sommes unis à Christ. Et la conséquence de notre union à Jésus-Christ, eh bien, c'est que nous haïssons ce que Jésus déteste et nous aimons ce que Jésus aime. Comment pourrais-je prendre plaisir à faire quelque chose que Dieu déteste? Comment moi pourrais-je prendre du plaisir à faire des choses que Ludivine, mon épouse, déteste? Ça n'a aucun sens. Pensez-y la prochaine fois que survient la tentation. Lorsque vous voulez regarder une vidéo malsaine sur Internet. Lorsque vous voulez lire un roman à l'eau de rose érotique, du type 50 nuances de gris, ou vous savez, ces livres qu'on appelle de porno féminin. Vous devez simplement réaliser que ce n'est plus vous. Vous n'avez plus rien à voir avec cela. Vous êtes déjà au ciel avec Christ. Et je peux vous certifier que face à la tentation, se rappeler ces vérités-là, ça change absolument tout. Il ne s'agit pas de règles strictes, de simples interdits à suivre mécaniquement. C'est la conséquence directe de l'Évangile. Ensuite, Paul énumère une deuxième liste de péchés. Si la première liste concernait des péchés individuels et centrés sur soi, la deuxième met en lumière des péchés communautaires dirigés vers les autres. Paul s'attaque donc aux péchés relationnels qui gangrènent l'Église. Vous savez, toutes ces fois où on pointe du doigt le péché d'un frère ou d'une sœur, sans se rendre compte que trois autres doigts nous accusent. Je suis si facilement enclin à penser que je suis irréprochable. Mais qu'en est-il de ma jalousie? Des critiques qui ont blessé? Qu'en est-il des murmures que j'ai propagés? Qu'en est-il de ma médisance qui a divisé? Voici la question que j'aimerais que l'on se pose. Est-ce que mon comportement provoque la division de l'Église? Que pensez de Donald Trump? Que pensez du parler en langue? Que pensez d'Harry Potter? Que pensez de la prédestination? Israël ou Palestine? Ces questions sont de véritables étincelles qui peuvent allumer des tensions et créer des divisions dans nos églises. Est-ce que mes convictions sont un frein à une véritable unité? Si j'ai un désaccord avec un autre chrétien, oui, ça peut arriver, la seule manière de dépasser cette différence, c'est de nous rapprocher de Christ. C'est de réaliser notre union à Christ. On ne peut pas accorder un violon avec un autre violon. Il faut que les deux s'accordent sur le même diapason. Pour vivre une véritable unité, il faut se rapprocher de ce qui est céleste. Plus nous nous rapprocherons de Christ et plus nous vivrons une véritable unité, centrée sur l'Évangile, centrée sur la parole de Dieu. Alors, à quand remonte la dernière fois que vous avez tué? Je ne parle pas du moustique qui vous empêche de dormir, mais je parle de votre péché. quel péché dois-je mettre à mort dans ma vie ? Le problème, c'est que nous aimons trop notre péché. Vous savez, un peu comme Frodon qui aime tant cet anneau si précieux, si mignon à ses yeux, mais qui en réalité pervertit et corrompt son âme. Il n'arrive plus à s'en débarrasser et il préfère le garder quitte à s'habituer de ses effets néfastes. Comment arriver à mettre à mort mon péché ? Par ma force de caractère ? Non. Par du développement personnel ? Certainement pas. Mais en réalisant, versets 9 et 10, que vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien et que vous avez revêtu le nouveau. Pensez à un prisonnier. Vraiment le cliché qu'on peut se faire du prisonnier. Tenue rayée, boulet aux chevilles, numéro sur sa poitrine. Le jour où ce prisonnier va être libéré, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va continuer à porter sa tenue ? Certainement pas. Il va se dépouiller de ses habits de prisonnier, il va se revêtir d'une nouvelle tenue, celle d'un homme libre. Réalisons-le, mes amis. Notre ancienne nature a été crucifiée lorsque Christ a été crucifié. Nous sommes ressuscités quand Christ est ressuscité. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour mettre à mort ce qui est terrestre et pour revêtir ce qui est céleste. Mais comment faire quand je n'arrive pas à le réaliser ? Quand il me semble que je n'arrive pas à mettre à mort ce péché, je chute et je rechute et je rechute toujours au même endroit. Je dois m'accrocher à la promesse du verset 10. Vous avez revêtu le nouveau. C'est un fait, c'est accompli. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je suis renouvelé à l'image de Seigneur Jésus-Christ. Un jour, ce renouvellement sera total et définitif. Est-ce que ça ne vaut pas le coup pour nous ? Ça vaut tous les efforts du monde. Dès aujourd'hui, je peux me conformer à l'image de Jésus-Christ. Et quelle en sera la conséquence ? Eh bien, si nous sommes unis à Christ, nous serons tous unis entre nous. C'est ce que dit le verset 11. Regardez, si vous lisez, il y a écrit « il y a là ». Ça veut dire quoi, « là » ? Qu'est-ce qui monte, Paul ? Il monte Jésus-Christ avec les versets 9 et 10. Il y a en Jésus-Christ ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons la haine grandir, le racisme se renforcer, l'insécurité augmenter, l'isolement s'installer. Les gens vivent côte à côte, mais plus ensemble, et certaines communautés se détestent et refusent même de cohabiter. Quelle est la solution pour que tous les peuples de la terre, toutes les ethnies, toutes les cultures puissent vivre ensemble ? Quelle est la solution à cela ? La mondialisation a été un échec lamentable. Le multiculturalisme est un fiasco. Le communisme est un désastre. La solution, c'est l'Évangile. Tous soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. En Christ, nous vivrons une véritable unité. Et juste regardons autour de nous ce matin. Ne sommes-nous pas ce matin une preuve que l'Évangile est ce qui nous unit ? Alors posons-nous la question. De qui suis-je le plus proche aujourd'hui ? Avec ceux de mon ethnie ? Ceux de ma culture ? Ceux de ma classe sociale, ou bien avec ceux qui, comme moi, sont unis à Christ. Ce lien-là est plus fort que tout lien naturel. Le chrétien ne se définit plus comme belge, congolais, vietnamien ou anglais. Il ne se définit plus comme noir, blanc, riche, pauvre, instruit ou non. Le chrétien se définit avant tout comme chrétien. C'est aussi simple que ça. Parce que Christ est tout et en tous. Ce qui compte, ce n'est plus mon origine, mais mon union avec Christ, mon union dans sa mort, dans sa résurrection et dans son élévation. Paul nous montre que pour éviter l'archipélisation de l'Église, il faut mettre à mort le péché. Cette mortification est nécessaire, mais pas suffisante. Si elle suffisait, Paul se serait arrêté là. Mais comme vous l'avez remarqué, notre texte ne s'arrête pas au verset 11, mais il continue jusqu'au verset 14. Le deuxième grand commandement de Paul, c'est « Vous êtes vivants, revêtez-vous des vertus de Christ ». Si vous remarquez, notre texte de ce matin comporte deux impératifs. Au verset 5, « Faites mourir » et au verset 12, « Revêtez ». Parce que quel est le danger quand un chrétien se concentre seulement sur la mortification ? Il y a ce jeune homme, Raphaël, qui veut arrêter de regarder du contenu malsain sur Internet. Alors il mémorise des versets pour lutter. Il participe au défi 31 jours de pureté du blog Chrétien Tout pour sa gloire. Il lit des articles, il colle des versets sur son ordinateur. Et au final, eh bien, il ne fait que penser à son péché. Toute la journée, il pense qu'à ça. Je dois lutter contre ce péché, je dois lutter contre ce péché. Et du coup, il réfléchit et il est toujours confronté à son péché-là. Et il finit par échouer. Quand vous apprenez à conduire, une des premières leçons qu'on vous apprend, c'est que quand il y a un obstacle sur la route, il ne faut pas regarder l'obstacle pour l'éviter. Parce que si vous regardez l'obstacle, vous allez foncer dessus. Il faut regarder à côté de l'obstacle, là où vous voulez rouler, là où il n'y a pas de danger. C'est exactement la même chose avec la vie chrétienne. La mortification seule est vouée à l'échec. Il faut un modèle positif à suivre. Un jour, un de mes enseignants m'a demandé « Tony, quand est-ce qu'un voleur arrête de voler ?» La question, elle était pour moi simple. Un voleur arrête de voler, il arrête d'être un voleur quand il arrête de voler, quand il arrive de prendre les objets des autres, c'est aussi simple que ça. Il m'a répondu « Mais pas du tout. Un voleur arrête de voler quand il commence à donner. » Quand il commence à donner. C'est très important pour nous. Il ne s'agit pas seulement de se dévêtir de notre ancien homme, mais de revêtir le nouveau. Le raisonnement de Paul est on ne peut plus logique. Puisque nous sommes destinés à la gloire, alors habillons-nous en conséquence. Il faut revêtir une tenue adaptée à ce qui nous attend. Si vous êtes invité à un mariage, de grâce, n'y allez pas en jogging. Vous allez prendre vos beaux habits parce que vous voulez honorer cet événement-là. Le vêtement qu'on porte dit quelque chose sur ce que l'on est. Si je vois un homme avec une tenue de feu, je sais que c'est un pompier. Si je vois une petite fille avec une tenue de danse, je sais que c'est une danseuse. Notre tenue, notre manière de vivre révèle qui nous sommes et à qui nous appartenons. Même notre manière de parler. Si dans votre milieu professionnel, vous dites « wesh » à toutes les phrases, vous allez avoir beaucoup de formes, de portes qui vont se fermer. Et pour nous, chrétiens, c'est pareil. Puisque nous faisons partie de ceux qui vont vivre la gloire de Christ, alors habillons-nous dès aujourd'hui en conséquence. Alors de quoi devons-nous nous revêtir ? Paul nous donne 5 vertus qui doivent remplacer les 5 péchés qu'on vient de voir précédemment. Et je vais juste rapidement lire ces 5 vertus et je vais juste vous donner des citations de théologiens qui expliquent ce que ça signifie. La tendresse magnanime. C'est un cœur rempli de miséricorde, semblable à celui de Christ. Il s'émeut des besoins des autres avant les siens. En gros, c'est ce que je ressens pour toi. La bonté, c'est le reflet visible de la grâce invisible. Celui qui la possède ne peut voir le mal sans vouloir le réparer. Ça, c'est plutôt ce que je fais pour toi. L'humilité, c'est l'ornement principal de l'âme renouvelée. Celui qui voit la gloire de Christ ne peut pas être fier. Et je rajoute cette citation de Spurgeon. Beaucoup parlent de l'humilité, mais elle demeure parmi les plus rares des bijoux. Beaucoup prennent fierté à ce qu'ils appellent ne pas avoir de fierté. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse, mais une puissance contenue et disciplinée. Il y a une expression qui l'illustre bien, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et enfin, la patience. La patience chrétienne n'est pas une simple endurance, mais une soumission joyeuse à la volonté de Dieu dans l'épreuve. Et ma question pour nous ce matin, franchement, qui est à la hauteur ? Personne. Mais notez la précision du verset 13. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. En quoi cette précision est-elle importante ? Parce que lorsque l'on considère ses qualités, on s'aperçoit qu'elles ont toutes été parfaitement manifestées par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Pensez à Christ, voyant les foules, il fut rempli de tendresse magnanime pour elles, parce qu'elles étaient harassées, abattues, comme des brebis sans berger. Voyez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, faisant des actes de bonté et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Contemplez Christ qui s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Écoutez l'ordre de Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos parce que je suis doux et humble de cœur. Fixez les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert patiemment la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Revêtir ses vertus, c'est vivre l'Évangile au quotidien. C'est remplacer nos anciens péchés par la beauté du caractère de Christ. C'est refléter Jésus dans nos paroles, nos gestes et nos actions. Mais pourquoi Paul conclut en disant, au verset 14, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Parce que toutes les vertus du monde sans amour ne valent rien. Qu'est-ce que de la tendresse magnanime sans amour ? C'est du narcissisme, ça veut dire manifester de la compassion seulement si ça nous arrange quand ça nous touche. Ce ne serait que des sentiments qui nous mettraient en valeur et nous donneraient de l'attention. Qu'est-ce que de la bonté sans amour ? C'est être calculateur, opportun, ça veut dire faire le bien pour recevoir quelque chose en retour, non pour l'autre, mais pour moi. Qu'est-ce que de l'humilité sans amour ? Ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est tirer gloire d'un simulacre d'humilité, ou pire, de l'obséquiosité, c'est-à-dire une humilité dégradante pour plaire. Qu'est-ce que de la patience sans amour ? C'est de la mollesse, c'est de la lâcheté. Tu cèdes toujours pour éviter le conflit, pas pour le bien de l'autre, mais juste pour ne pas être dérangé. Et enfin, qu'est-ce que de la douceur sans amour ? C'est de la fragilité, de la faiblesse. Tu n'as pas le choix que d'accepter ce qui t'est imposé. Il y a quelque temps, je devais faire la queue pour un règlement administratif. Et j'étais plutôt derrière la file. Et il y a un groupe de jeunes personnes qui sont passées devant tout le monde et qui sont passées devant un père de famille avec sa petite fille. Et le père de famille a dit à ces jeunes, « Bon, allez-y, passez devant moi, je ne dirai rien. » Était-ce de la douceur ? Moi, je pense que c'était de la lâcheté. Ils n'avaient pas le choix que de les laisser passer, parce que sinon, ils allaient s'attaquer à son physique et à sa fille. Ils n'avaient pas la puissance nécessaire pour s'opposer à cette injustice-là. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. » En quoi ça devrait nous rassurer de savoir que Jésus est doux ? C'est parce que Jésus est la puissance du Dieu créateur de l'univers qu'il utilise seulement pour le bien de l'autre. De quel genre de personne je peux me sentir en sécurité ? Ce n'est pas par une personne qui est trop faible, trop lâche, qui n'a pas le choix que d'accepter ce qu'on lui impose. Ça, cette douceur l'air, ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas non plus avec une personne qui est trop arrogante, qui veut montrer sa virilité et sa force et qui est violent avec les autres personnes. On n'a pas confiance à ces personnes-là, parce qu'elles ne savent pas maîtriser leurs fausses. On a confiance en une personne qui a la puissance nécessaire, mais qui agit seulement pour les biens des autres, par amour et par sacrifice. Voilà qui est notre Seigneur, Jésus-Christ. En conclusion, comment éviter l'archipélisation de l'Église ? Tout dépend de la vision que vous avez de l'Église. L'Église est-elle pour toi une simple association ? C'est vrai qu'il y a des règles à suivre, des droits à défendre et parfois des mesures disciplinaires. Mais l'Église est bien plus que ça. C'est le rassemblement, au verset 12, de ceux qui sont choisis par Dieu, saints et bien-aimés. C'est le rassemblement de tous ceux qui sont sauvés par grâce. Ainsi que notre comportement, nos paroles et nos pensées soient imprégnés de cette même grâce. Si ce n'est pas déjà le cas, Un jour, quelqu'un de l'Église vous décevra. Un jour, quelqu'un de l'Église vous blessera. C'est obligatoire, puisque l'Église, ce n'est pas un musée des gens parfaits, mais c'est un hôpital de pécheurs blessés et en chemin, qui sont tous en apprentissage de la grâce. Ainsi, ne venons pas à l'Église comme des clients qui attendent un service parfait. L'Église, ce n'est pas un supermarché spirituel où l'on choisit ce qui nous plaît, où on change de rayon quand quelque chose ne va pas. Non, il s'agit de la famille même de Dieu, un lieu où nous apprenons ensemble à vivre de la grâce que nous avons reçue gratuitement. Alors je vous lance un défi. Ce soir, juste avant de vous endormir, relisez le texte que nous avons lu et posez-vous cette question-là. Quelle liste me correspond le mieux? Et si tu te rends compte que tu as blessé une personne ou que quelqu'un t'a blessé, souviens-toi, tu as l'occasion de mettre en pratique la grâce que Dieu t'a lui-même manifestée. Car l'Église, ce n'est pas un endroit où tout le monde fait toujours bien les choses, mais c'est l'endroit où Dieu a choisi de faire grâce à des gens qui ne le méritaient absolument pas. Prions. Notre Dieu, notre Père, pardon pour toutes ces fois, ces nombreuses fois, où j'ai laissé le péché s'exprimer à travers moi et où mon comportement a plus provoqué une division qu'une unité dans mon assemblée. Pardon pour toutes ces moqueries que je peux manifester, pour toute cette fois où je me sens orgueilleux, prétentieux, supérieur. Je te demande pardon. Et je sais que le pardon m'est accordé, puisque Christ a été crucifié et ressuscité. Mais ne me laisse pas seulement regarder au passé, où je regrette les péchés que j'ai pu faire, mais montre-moi que la vraie repentance n'est pas de regarder au passé, mais regarder au futur. Je veux m'engager à suivre l'exemple de ton Fils, Jésus-Christ, à apprendre à mieux le connaître, et à mieux réaliser que je suis uni à lui. Et que dans chaque domaine de notre vie, nous puissions continuer de manifester cette grâce au sein de notre assemblée, pour que notre unité soit la preuve vivante que oui, nous avons tout pleinement en ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen.